Malcolm Ferdinand, nous avons besoin d'une écologie décoloniale. Depuis une décennie environ, une scène des pensées de l'écologie a émergé en langue française. Comment décrire et nommer ce nouveau continent à la croisière des, des luttes, des arts et des consciences? À quelle œuvre collective ces acteurs sont-ils en train de donner vie? Comment l'écologie transforme-t-elle nos façons de penser et d'agir? Tant de questions. Pour ces 10 ans, les éditions Wild Project proposent, dans un nouvel ouvrage intitulé « Un sol commun », une série d'entretiens afin d'offrir une synthèse accessible des grands enjeux de l'écologie. Nous reproduisons ici, avec leur aimable autorisation, une interview du philosophe Malcolm Ferdinand sur les liens entre l'écologie et une pensée décoloniale. Ok, putain, c'est incroyable, c'est une interview qu'il y a dans les bouquins Wild Project. En vrai de vrai, les gens, les bouquins Wild Project, je vous les conseille. Bon, ils sont pas accessibles malheureusement en achat sur internet particulier. Mais en vrai, allez soutenir la maison d'édition, elle est trop cool. Et de ce fait-là, c'est trop cool qu'ils aient pris cette initiative de donner ça, quoi. Donkey Kong Country, meilleur jeu, oui, incroyable. Donkey Kong Country sur NES, là. Enfin, sur Super NES, pardon. Marin Schaffner, qu'est-ce que vous avez conduit vers les questions de l'écologique? Ah oui, d'accord, du coup, c'est une interview. Malcolm Ferdinand. J'ai grandi en Martinique où j'ai passé les 18 premières années de ma vie. Je crois qu'en grandissant sur une île, on est assez rapidement sensible aux changements environnementaux et aux limites autour de soi. Et c'est aussi là que j'ai pu développer une sensibilité aux inégalités sociales et aux injustices politiques. Grandir en Martinique, c'est grandir au sein d'un passé colonial et esclavagiste qui est inscrit dans les paysages au pourtour des plantations et qui se manifeste dans les malaises entre noirs et blancs, entre descendants d'esclaves et descendants de colons, entre personnes d'ici et personnes de là-bas. Wow. Et en vrai, on l'a vu, hein, chlordécone, un des gros problèmes du chlordécone, c'est que bah, c'est encore des béquets qui ont accès aux terres. Et du coup, bah, c'est des blancs issus de... Enfin, c'est des blancs descendants de maîtres esclavagistes qui ont encore accès aux terres des... Alors, on va peut-être pas dire des indigènes, mais aux terres des Martiniquais et Guadeloupéens, quoi. Donc, de manière très simple, je voulais œuvrer pour un monde plus juste. Noble cause. Ma première envie a été de faire de l'humanitaire et j'ai donc choisi de me former à des compétences techniques concrètes en faisant des études d'ingénieur civil à Londres. Dans le cadre de ce cursus, j'ai fait une année d'échange en Australie où j'ai pu à la fois me spécialiser en ingénierie de l'environnement et en même temps rencontrer les questions aborigènes et faire de nombreux liens avec la situation du monde caribéen. Ok, putain, je savais pas que c'était qu'il avait fait ça. Incroyable. Durant ces 4 années, je me suis forgé un vrai souci technique de l'environnement, principalement sur les questions d'efficacité énergétique et de pollution. Ah, c'est pour ça qu'il est aussi basé sur les questions de pollution. On avait lu un article récemment, on avait lu un article de Ferdinand là-dessus, justement, où il évoquait les pollutions dans les Outre-mer, justement. À la fin de mes études, je suis parti en mission humanitaire au Darfour pendant 6 mois, où j'étais responsable de l'accès à l'eau et de l'assainissement dans les zones rurales et dans un camp de réfugiés. Là-bas, je me suis confronté aux réalités du monde humanitaire et j'ai très vite compris que tout le problème de nature environnementale est avant tout un problème politique. Ah bah, basé, hein. Alors voilà la grosse différence entre les blancs qui font de l'humanitaire et les mecs qui sont issus d'un passé particulier, c'est qu'ils arrivent à se rendre compte que, voilà, c'est politique et c'est pas juste pour faire des photos avec... des photos à mettre sur Tinder parce que vous allez faire de l'humanitaire, quoi. Alors je troll un peu, mais bon, il y a des gens qui le font premier degré. Or, on ne résout pas un problème politique avec une approche techniciste. Là, je saisis enfin quelque chose que je n'avais pas bien réussi à articuler dans ma formation d'ingénieur. Oh, en vrai, ultra basé, hein, la question de l'approche technique et compagnie. Genre, oui, bon, les affects existent, les affects et la politique sont disponibles, en fait. Donc, à mon retour, j'ai décidé de creuser cette dimension sociale et politique par un master en philosophie et sociologie politique à Paris, que j'ai prolongé par une thèse qui s'intitule « Penser depuis le monde caribéen ». Ok, en fait, il a fait un master en philosophie après un truc d'ingénieur. Ouah, c'est incroyable! Non mais attendez, si tous les ingénieurs faisaient un master philosophique, je pense qu'on aurait résolu beaucoup beaucoup de... Désolé, hein. Je pense qu'on résoudrait beaucoup de problèmes, genre voilà. Et n'hésitez pas à faire un master là pour ceux qui sont un peu... qui hésitent, je pense que ça peut faire du bien. Ah, je suis un petit con, hein. Désolé. Ne vous méprenez pas, notre all ingénieur bien sûr. Le chlordécone a contaminé 20 000 hectares de terres densément peuplées pour plusieurs siècles. Personne ne sait encore comment dépolluer et les conséquences en termes de santé publique sont alarmantes. Donc on rappelle, chlordécone c'est environ une pollution de 600 ans et c'est des cancers, un taux de cancer ultra élevé, je crois, c'est de thyroïde et des cancers, voilà, notamment thyroïde, mais d'autres cancers, et des problèmes aussi pour les donner naissance aux enfants. Envie de faire un master, mais incapable d'aller en cours sans entrer en dépression. Ici, on va essayer quand même. Bah ouais, bah en vrai, Thierry, je vais vous faire même. En vrai, essaye, hein, essaye. Si tu arrives, force de ouf. Si tu arrives pas, bah voilà, tant pis, mais essaye de ouf. Voilà, et puis même, limite, réessaye. Si t'as vraiment envie, faut essayer. Moi, vraiment, pareil, hein, j'aimerais bien peut-être y retourner aussi, un de ces quatre. Mais pas tout de suite, mais peut-être dans 3-4 ans, hein, pourquoi pas réessayer. Comment est né ce projet de thèse ? J'ai voulu développer une conception de l'écologie associée à une exigence d'égalité et de justice à partir d'une région que je connais bien, la Caraïbe. J'ai réalisé que j'avais besoin de rencontrer des personnes qui réfléchissent et agissent sur ces questions d'écologie politique depuis ce contexte colonial et post-colonial. Ah, d'où le travail aussi du militantisme, enfin le travail militant. Et ça, c'est vrai que ça, c'est un truc qui me manque beaucoup, moi, à titre personnel, c'est d'aller rencontrer les militants et d'aller un peu prendre la température, quoi. Ce fut en quelque sorte un retour au pays natal, selon l'expression d'Aimé Césaire. J'ai donc mené beaucoup d'entretiens en Martinique, en Guadeloupe, en Haïti et à Porto Rico, au sujet de plusieurs conflits écologiques. Je me suis notamment intéressé à la question des pesticides, d'un pesticide, le chlordécone, qui fut utilisé massivement dans les bananeraies antillaises de 72 à 93. Et du coup, voilà, Malcolm Ferdinand est quelqu'un qui est souvent mis en avant sur ces questions-là, parce qu'il maîtrise le sujet et il a beaucoup écrit là-dessus, donc trop vieux pour un master. Ah, après, voilà, si... En vrai, non, en vrai, je sais pas quel âge ça, mais on n'est jamais trop vieux. Regarde, Mélenchon, il veut retourner faire l'anthropologie. Cette molécule cancérigène a contaminé 20 000 hectares de terre densément peuplée pour plusieurs siècles. Personne ne sait encore comment dépolluer et les conséquences en termes de santé publique sont alarmantes. Ce cas illustre les dommages de ce que j'appelle, avec Donna Haraway et Anna Tsing, la plantationocène, en lieu et place de l'anthropocène, c'est-à-dire la violence humaine et non humaine d'une terre globalisée comme un puzzle de plantation. Alors pareil, pour ceux qui ne savent pas, les plantations, c'est vraiment la plantation coloniale avec de la monoculture pour une culture d'exportation et très souvent imposée par le Nord, quoi, par le Nord global. Tu as quel âge ? C'est pas indiscret. Non, t'inquiète, j'ai 27 ans. Mélenchon, c'est un bourgeois. Ouais, c'est vrai. Au final, ces quatre terrains me poussent à proposer une autre compréhension de la crise écologique, à la fois politique et historique, qui prend en compte la constitution coloniale du monde moderne, ce qui est un grand absent de la pensée environnementale. Alors en vrai, c'est pour ça, et les gens, en vrai, sincèrement, pour ceux qui veulent un peu se questionner sur les questions écologiques et qui savent pas trop par où commencer, alors c'est un livre qui est compliqué, mais qui vaut vraiment, vraiment le détour. Du coup, je vous conseille ce livre, Une écologie décoloniale. Et en fait, ce qui est bien, et moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'en gros, à chaque début de chapitre, il y a un poème qui parle justement des conditions des personnes esclavagisées. En gros, c'est des poèmes qui évoquent les conditions dans les bateaux. Je vais pas le dire sur Twitch, mais voilà. Des bateaux qui transportent les esclaves. Et du coup, il y a un côté politique, philosophique, sociologique. Enfin, bref, c'est vraiment une mine d'or. Et du coup, voilà, s'il y a des gens qui hésitent, vraiment, je vous le conseille. En plus, il est un peu cher. Il coûte à 25€. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, vous pouvez le trouver facilement sur le Discord. Et voilà, après, vous pourrez l'acheter à terme, quoi. Mais je vous conseille sincèrement, très très bon bouquin. Pourquoi n'est-ce plus courant d'insister sur ce lien entre la question écologique et la question coloniale selon vous ? Pourquoi n'est-ce pas plus courant ? L'absence de l'histoire coloniale et esclavagiste du monde moderne n'est pas spécifique à l'écologie. Par exemple, quand on observe le rapport de la France à son histoire coloniale et esclavagiste, on remarque une difficulté générale à analyser les choses et à en tirer des leçons. Alors là, vraiment, il suffit de voir comment Omar Sy s'est pris une shitstorm juste pour avoir dit, bah voilà, c'est une partie de notre histoire. Oui, la France, grosse wild geek, hein, globalement. Il y a moyen d'avoir le dossier des notes. Je sais pas si je les ai fournies, ces notes-là. Attends. Tac, est-ce que je les ai mis en ligne, les notes ? Attends, je vais te dire ça. Hop, une écologie. Non, je les ai pas mis, mais je pourrais les mettre disponibles. Ouais. Si tu veux, je pourrais mettre disponibles mes notes. Ouais. Parce que en fait, elles sont encore sur le papier, je crois. Pourtant, il faut regarder les problèmes en face. Car, de mon point de vue, on ne peut pas s'interroger sur le sort de la planète sans s'interroger sur les fractures historiques et contemporaines qui traversent le monde. Je suis également surpris par le fait que, trop souvent, la question coloniale ne semble même pas être considérée comme un problème. Ce qui laisse croire qu'on pourrait donc réfléchir à la planète en faisant de l'histoire coloniale quelque chose d'annexe ou de dépassé. Et ouais, et en fait, ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que au-delà même d'oublier l'histoire coloniale, c'est que les gens oublient qu'il y a une histoire néocoloniale qui est en train de se construire. Et ça, c'est quelque chose qui est assez dramatique, c'est que la plupart des gens, ils sont en mode, oui, la colonie, c'est fini. En fait, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas, ils n'ont pas non plus la possibilité de pouvoir développer rien que le fait de se dire, oui, en fait, il y a une histoire néocoloniale qui est en train de se mettre en place, dont Boyard a essayé de mettre en avant avec l'histoire de Bolloré. Et à l'heure actuelle, c'est, alors, je vais pas dire inentendable, mais quasiment inentendable, quoi. La culpabilité est d'autant plus grande que la prétention à l'égalité. Ah ouais, je suis un peu d'accord, Shadow, ouais. Situation coloniale, c'est compliqué, ouais, vraiment. Alors qu'en vrai, non, il n'y a rien de compliqué, c'est, voilà, il faut juste prendre ça en main et réfléchir politiquement comment on règle les choses, et voilà, c'est... En vrai, en plus même, en vrai de vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une côté assez beau là-dedans, c'est que c'est un côté émancipateur et qui va vraiment permettre d'évoluer et de se libérer de plein de trucs, quoi. Donc c'est un débat qui est ultra important, ultra intéressant, et qui est vraiment un débat libérateur, sincèrement. Et que les conséquences du colonialisme font le monde aujourd'hui. Oui, et ça, par contre, ça, je suis d'accord. C'est que la colonisation, en fait, a encore un impact à l'heure actuelle. Et je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui veulent pas admettre certaines choses, quoi. Nos États-nations portent toujours en eux leurs traces et les structures héritées de la colonisation. Non, voilà. C'est ça. C'est que malheureusement, bon. Ça, par contre, je comprends que les gens n'ont pas envie d'assumer, ouais. Or, penser l'écologie en omettant la constitution coloniale du monde, c'est comme essayer de réfléchir à un problème en se cachant un œil. Voilà, il dit tout. Il faut voir par exemple le traitement qui est fait de la figure du réfugié climatique, qui est un problème écologique, ne l'oublions pas. Le réfugié est presque toujours pris en dehors de son contexte sociopolitique et de son histoire. Comme si, soudainement, pour parler du changement climatique, il fallait mettre de côté les inégalités et les rapports existants avant ladite catastrophe. Il est vraiment basé, hein, désolé, je souligne tout, hein, mais il est trop basé. Or, en faisant cela, on jette l'ombre sur ceux qui n'ont pas le luxe de s'affranchir de leurs conditions sociales, ni de leur expérience de discrimination, qu'ils soient dans les bidonvilles, dans les camps de réfugiés ou dans les bateaux de migrants. Penser l'écologie en omettant la constitution coloniale du monde, c'est comme essayer de réfléchir à un problème en se cachant l'œil. Voilà donc. Je suis pas censé lire ces trucs-là, mais je sais pas pourquoi j'ai voulu lire. Je suis donc pour une autre problématique et une autre compréhension des questions écologiques, y compris du changement climatique. De ce point de vue-là, le premier mouvement à la fois militant et académique qui aura posé la question écologique dans des termes vraiment intéressants, selon moi, c'est le mouvement de la justice environnementale, qui trouve ses origines dans les années 70-80 dans les luttes menées par les populations afro-américaines aux États-Unis contre les pollutions disproportionnées de leur lieu de vie. Ici, la question écologique est intimement liée à la question de justice. Et garde en tête que, aux États-Unis, il y avait vraiment cette question du racisme environnemental, elle est vraiment déployée aux États-Unis, cette question-là. Et ça rebondit aussi au mouvement qu'il y a eu avec les droits civiques. En fait, je pense qu'à peu près dans la même période, il y a eu les droits civiques et les droits pour la justice climatique. Et du coup, il y a vraiment pu avoir un espèce de ping-pong d'informations, quoi. Dans le titre de votre thèse, il y a l'expression « penser l'écologie ». Quel sens cela a-t-il pour vous? Le point de départ, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on entend couramment par « écologie » ne va pas de soi. C'est vrai. Donc j'invite à un ensemble d'exercices de conceptualisation, d'exercices de réflexion sur ce qu'on entend par écologie et par crise écologique. D'ailleurs, j'ajoute dans le titre de ma thèse la particule depuis, parce qu'on a souvent l'impression qu'il est possible de penser l'écologie depuis un point hors sol et hors monde, sans réfléchir au lieu sur où nos pieds sont posés dans les multiples dimensions, géographie, historique, sociologique, etc. Oh là là, oui, vraiment, il est vraiment basé à un Malcolm. Et oui, en fait, il a tellement raison, c'est que tu peux pas penser l'écologie politique la même manière dans les Caraïbes, en France, au fin fond de la campagne ou à Paris, tu vois. C'est pas possible de pouvoir le faire. Et c'est pour ça qu'il faut avoir plein de cadres différents de réflexion pour permettre de trouver des réflexions, des hypothèses, puis même la matérialité aussi de l'écologie au sein des différentes populations, quoi. C'est très, 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 très important. Bisous, Sherlock, merci d'être passé. Or, ce n'est pas la même chose de penser l'écologie selon que qu'on le soit dans un bidonville en Afrique du Sud, dans un camp de réfugiés au Darfour ou dans le bois de Vincennes à Paris. Et enfin, il y a le monde caribéen qui, pour moi, n'est pas seulement la région des Caraïbes, mais surtout une expérience du monde qui se fait à partir des réalités caribéennes. En gros, elle a, alors, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais une forme de praxis caribéenne, à peu près. C'est une expérience du monde qui s'appuie sur une critique du legs colonial et une pratique collective du décentrement. Géographique, sociale, artistique, politique. Donc, cette écologie, depuis le monde caribéen, donne des outils pour penser l'écologie partout dans le monde. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est à toi, Yandre, ce qui est intéressant, c'est que Malcolm Fanion a écrit, par exemple, des textes sur l'historiographie, comment justement on a écrit l'histoire et on a écrit le, on a construit une histoire blanche, etc. Et il y a aussi Mobido Kadali qui parle de ça beaucoup. Et moi, je trouve ça hyper intéressant, les questions d'historiographie, notamment voilà, sur les questions coloniales et néocoloniales et compagnie. Ça permet vraiment d'avoir une autre lecture de l'histoire et aussi de se défaire de beaucoup de choses dans lesquelles on est ancré, dans lesquelles on est construit, tu vois. Et c'est pas mal libérateur. Pour ceux qui veulent, on a fait un des quelques reacts là-dessus. Donc je vous conseille de checker. Vous tapez Anthropocène noir, par exemple, de Malcolm Ferdinand. Et ça revient un peu là-dessus, quoi. Vous parlez également d'écologie hors monde. Comment faut-il le comprendre ? L'écologie hors monde, c'est une écologie qui n'a pas pour horizon d'action de chercher à vivre ensemble. Une écologie qui peut même avoir comme visée une forme d'acosmisme. Ouais, c'est ça, acosmisme. Comme le disait Hannah Arendt, un refus de vivre ensemble. En vrai, on pourrait dire, on peut penser à l'écologie fasciste, quoi, tout simplement. L'écofascisme, en vrai, de vrai, ce genre de choses. Et oui, voilà, l'écofascisme, c'est vraiment ça, c'est le vivre sans l'autre, quoi. C'est vivre sans l'autre et c'est. C'est enfermer et réduire l'autre en tant que. Que individu qui ne fait pas partie du commun. Pareil pour nos solutions et systèmes démocratiques, on peut pas copier-coller à 100% l'anarchisme et le communisme à toutes les géographies et cultures du globe, à l'instar de l'écologie. Oui, clairement, de ouf, de ouf. C'est pour ça qu'au Chiapa, c'est du néo-zapatisme et au Rojava, du confédéralisme démocratique, et pas de l'anarcho-communisme à proprement parler. Ouais, t'as raison, de ouf, Thierry. T'as raison d'appuyer là-dessus, c'est très important de dire ça. C'est que chaque lieu géographique est différent. Et c'est pour ça que moi, j'ai un vrai discours lié au régionalisme, parce qu'on ne peut pas appliquer des politiques partout dans toutes les régions de France. Non, chaque région, voire même, moi je dirais même, chaque département a ses propres politiques, ses propres manières de vivre, ses propres cultures, et on peut pas appliquer comme ça une règle, hop, un calque de règles à toute une population, ce n'est pas possible. En France aussi, anti-tiganisme fait qu'on installe très souvent les aires d'accueil dans des non-espaces occupés de tout, près de sites pollués ou à risque. Ouais, exactement, Digobor. Il y a un militant sur Twitter qui parle de ça. Un militant justement par rapport aux questions des gens du voyage et des tziganes. J'ai plus le nom, mais je crois qu'il est disponible sur le site, il faudrait que je vous le refile. Et ouais, très important de parler de ça, donc par rapport au racisme environnemental, dans le sens où on met les populations un peu comme ça, non blanches ou en dehors du cadre de l'État-nation, quoi, sont mises en retrait et proche des trucs pollués. Ouais, ça, William Acker. Oui, t'as raison, je crois que ça, ouais, mais William Acker, merci pour le lien. Pot de vin libre. Oui, on espère. C'est ce qu'on voit par exemple dans une approche des réserves naturelles fondée uniquement sur l'expulsion violente des populations indigènes locales pour une prétendue préservation de la nature. L'un des dangers majeurs actuels, c'est d'utiliser la crise écologique comme un moyen de jeter le monde par-dessus bord. Car, comme on a associé l'écologie avec un simple environnementalisme, on a créé une pensée apolitique de la crise écologique qui peut laisser place à toutes les dérives. On peut avoir une écologie capitaliste et néolibérale, de même qu'une écologie coloniale. Et voilà, et là-dessus, je suis carrément d'accord avec lui. Et on l'a vu hier, pour ceux qui étaient là dans le documentaire hier, on a eu les écologistes aux États-Unis et en Angleterre qui ont permis de faire voter une loi pour faire rentrer l'eau dans les marchés financiers. Pour, soi-disant, protéger l'environnement. Donc voilà en fait pourquoi il faut se faire gaffe avec la colonne vertébrale de certaines personnes dans les militants écologistes. C'est que si ta colonne vertébrale elle est bancale et elle est assez néolibérale ou capitaliste, tu vas faire des ravages et en fait tu vas croire que tu vas protéger l'environnement alors que pas du tout. Oui, c'est ça, merci Goldie, c'est bien ça, merci. Qu'est-ce qu'une écologie décoloniale alors ? C'est une écologie qui associe la préservation des équilibres écosystémiques de la Terre à la remise en cause des inégalités et injustices héritées de la constitution coloniale du monde. Dans les territoires d'outre-mer, comme dans les anciennes colonies, les mouvements sociaux mettent en œuvre une écologie qui ne se contente pas de préserver l'environnement ou de critiquer les pollutions, mais qui s'attaque aux structures mêmes et de ses problèmes environnementaux. Or, il se trouve que les structures sont des structures héritées de la colonisation. Voilà, donc c'est ce qu'il disait. Et ça, ça sort la question des coloniales, c'est que par exemple, ça va aussi entrer en compte avec la culture, avec le langage, avec le théâtre. Pour ceux qui veulent, moi j'ai lu récemment le bouquin... Donc j'aurai plus son nom, parce que c'est un nom compliqué, vous m'excuserez. Mais le titre du livre, c'est « Décolonisons l'esprit » ou « Décoloniser l'esprit ». Et par exemple, il parle du théâtre et il explique comment, en fait, le théâtre bourgeois et colon a enfermé le théâtre entre quatre murs et du coup a exclu une partie de la population. Et comment, en fait, lui, je crois que c'est au Sénégal, Je crois que c'est ça, c'est Sénégal, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est Sénégal. Comment, par exemple, au Sénégal, il a développé justement un théâtre ouvert à tous, et en fait, où les spectateurs peuvent interagir avec la pièce et modifier la scène, etc. Et en fait, vu que c'est ouvert dans le village, que c'est accessible à tous, il y a vraiment quelque chose d'organique qui s'installe, où chacun peut vivre, regarder, se mettre au loin et compagnie. Quand il pleut, la scène va se modifier et compagnie. Bref, ça change complètement la manière dont on pense le théâtre. Et lui, il expliquait que voilà, le théâtre avant se passait comme ça. Et par la colonisation, on a supprimé cette manière de faire et on a enfermé le théâtre entre quatre murs avec une espèce d'élite. Et du coup, lui, il essaye de remettre en place ça. Enfin, il a remis en place ça pour libérer le théâtre de la du dogme colonial. Je sais pas si on peut dire ça, mais voilà. Et donc, très très bon bouquin pour ceux qui veulent. J'ai pris quelques notes aussi. Donc, vous pouvez les trouver là. Ouais, ça, c'est Décoloniser l'esprit. Et bouquin vraiment bien. Franchement, je vous le conseille. Cette écologie est donc décoloniale. Ce genre d'éclairage est important parce qu'il déconstruit bien ce préjugé selon lequel les racisés et les pauvres ne se préoccupent pas d'écologie. Simplement, ici, la nature, entre grands guillemets, n'est pas séparée de l'histoire ni des quêtes de justice. C'est intéressant, du coup, qu'il rebondisse sur la question des plus précaires. Derrière cela, n'y a-t-il pas également pour vous un enjeu politique important, celui de faire monde? Oui, en effet, faire monde, c'est une expression que j'emprunte à Hannah Arendt, que je tire dans deux directions qui n'ont pas été les siennes, les non-humains et l'esclave colonial. Ce qui m'intéresse particulièrement avec le concept d'Hannah Arendt, c'est qu'elle permet une distinction entre la Terre, en tant que planète, et le monde. Et que le monde, pour elle, est ce réseau de relations pour lequel les humains sont liés, où les relations naissent non pas par l'appartenance à une communauté, mais d'un agir ensemble, d'action commune, d'un agir politique. Ok, putain, c'est intéressant le concept d'Arendt. C'est à partir de ce monde qu'un vivre ensemble sur Terre peut être fondé. Donc, ce faire monde, depuis la perspective coloniale, est très important car l'esclave est précisément celui à qui on a refusé le monde tout autant qu'on le place sur une terre. Au sortir de l'esclavage et de la colonisation, l'enjeu de cette pensée de l'écologie depuis le monde caribéen est donc bel et bien de faire monde. Ah là là, incroyable. Et oui, un des concepts importants de la pensée de Malcolm, c'est vraiment de dire il y a eu un habité colonial, et du coup il essaie de construire sa pensée pour un habité décolonial. Alors, je crois pas qu'il le dit comme tel, mais voilà, comme un espèce d'habité décolonial où le vivant, l'autre, est intégré dans cette logique, participe et peut du coup, on arrive à vivre tous ensemble.